On a dépassé le stade de la tension aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment une volonté affichée d'attaquer et d'envahir le pays voisin, c'est-à-dire du côté du Nord et du général Omar al-Béchir, l'intention d'occuper la capitale du Sud. Donc il faut bien se rendre à l'évidence, c'est-à-dire revenir sur l'indépendance du Sud. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce sont des effets d'annonce, des effets de manche pour unifier la nation, la patrie en danger contre l'ennemi du Sud? C'est fort probable. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment que les causes qui sont à l'origine de cette confrontation ne justifient pas ce recours aux armes. Ces causes sont effectivement des dissensions sur des questions qui sont négociables, qui sont parfaitement identifiées et pour lesquelles il y a des cénacles et des cercles dans lesquels elles devraient être discutées.
Pourquoi le conflit soudanais, les tensions soudanaises font l'objet d'une relative indifférence dans les médias? On parle énormément de la Syrie, évidemment, du reste du monde arabe, mais pourquoi le Soudan, on a l'impression que c'est un conflit oublié?
Je pense que le Soudan est un conflit surtout qui embarrasse. Qui embarrasse parce que c'est un conflit qui a duré 50 ans, il faut le dire, et qui s'est terminé par un accord de paix qui a été agencé par les Américains et qui concluait que quand les gens ne s'entendent pas, il faut les séparer. C'était pas du tout le but de guerre du mouvement rebelle, du mouvement de libération des peuples du Soudan qui, comme son nom l'indique, se battait pour un Soudan unitaire d'une certaine manière, mais qui reconnaissent la diversité ethnique et religieuse et qui reconnaissent l'égalité de tous les citoyens face à l'État. Les Américains sont ravis de ça parce que c'est le modèle, par exemple, qu'ils ont appliqué ailleurs, qu'ils appliquent en Irak, qu'ils ont appliqué en Yougoslavie avec les accords de Dayton. Hein, séparons selon des clivages culturels, des clivages religieux, des peuples qui ne peuvent pas vivre ensemble. Alors que ce n'est pas nécessairement la thématique soudanaise.
On sait que c'est la charia qui règne dans le Nord et de plus en plus rigoureusement, semble-t-il. Il y a pas moins de deux jours, un centre protestant a été encore incendié par des centaines de musulmans qui ont crié à la Wakbar. Est-ce que cette radicalisation aussi peut être source de déstabilisation et de tensions supplémentaires?
Je crois que ça peut jouer en effet, mais il ne faut pas oublier que le mouvement de libération des peuples du Soudan est un mouvement laïque, foncièrement laïque, c'est-à-dire qu'on a au Sud-Soudan des ministres musulmans, des hauts responsables musulmans, et puis que dans l'économie, ce sont encore des commerçants originaires du Nord, de la vallée du Nil, arabes et musulmans, qui tiennent l'ensemble du commerce du Sud. Donc, il y a eu, disons, une vision occidentale du conflit soudanais qui était totalement erronée, qui était celle d'un conflit entre chrétiens et musulmans. En réalité, aussi bien au nord où l'islam est utilisé avec la charia de manière parfaitement opportuniste, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une sorte de démagogie à l'égard des couches les plus facilement malléables de la population de s'en prendre aux protestants. Mais il n'y a aucune animosité. Les affaires prévalent et font que les dirigeants du Nord, Soudan, sont parfaitement à l'aise dans un milieu occidental et chrétien qui est finalement leur origine culturelle beaucoup plus que de l'Orient. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait un sentiment anti-chrétien virulent dans la population du Nord, loin de là. Et encore une fois, dans le mouvement rebelle, que vous regardiez au Sud-Soudan ou bien dans les régions périphériques que sont les monts Nouba ou le Nil Bleu, les dirigeants militaires de la rébellion sont des musulmans.